Donc la scientologie en France, autant qu'on puisse en juger, la scientologie, ça compte 1500 membres, dont 300 actifs. Donc vous voyez que ça représente beaucoup moins que d'autres réalités dont on a pu parler les fois précédentes, comme les témoins de Jéhovah par exemple. Hein. La Miviludes confirme, la Miviludes c'est donc la mission interministérielle de vigilance par rapport aux sectes, confirme que la secte est entrée dans une phase de piétinement liée en partie aux critiques et aux témoignages en ligne sur Internet qui leur sont très défavorables. Il faut savoir aussi que la scientologie a été reconnue comme religion dans certains pays, en Espagne, en Suède, au Portugal, en Hongrie, en Slovénie, en Croatie, en Albanie. Dans d'autres pays, c'est quasiment l'équivalent, mais par le biais de décisions administratives ou juridiques qui aboutissent en fait à une reconnaissance. Donc plus près de chez nous, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Voilà. C'est une problématique qui tend à poser des problèmes importants. J'ai eu l'occasion samedi dernier de faire la causerie sur les témoins de Jéhovah à des aumôniers de prison de la région de Dijon. Les équipes d'aumônerie de prison, et vraiment actuellement, ils se posent beaucoup, beaucoup de questions sur la façon dont les témoins de Jéhovah sont rentrés. Parce que, par une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, ils sont reconnus comme religion en France, quoi. Donc ils sont des aumôneries, donc ils font du porte-à-porte dans les prisons. Si vous êtes intéressé par le sujet, on revient à la page 1 maintenant. Donc vous avez plusieurs choses qui sont assez incontournables. Un livre qui s'appelle « Dans la secte » de Pierre-Henri et Louis Aloingue. C'est une bande dessinée en fait, publiée en 2005 aux éditions La Boîte à Bulles. Et qui est très très bien ficelé. Alors bien sûr, il y a le témoignage de Jenna Miscavige, rescapée de la Scientologie en 2013, qui avait fait beaucoup de bruit, qui est la nièce de David Miscavige, qui a succédé au fondateur Ron Hubbard en 1986. Elle en est sortie à l'âge de 21 ans, donc elle est quasiment née dedans. Hein. On peut mentionner le livre de Roger Gonnet qui s'appelle La secte, secte armée pour la guerre, chronique d'une religion commerciale à irresponsabilité limitée, publié en 1998. Il a passé 8 ans comme cadre dirigeant du mouvement, créant la branche lyonnaise de la scientologie. On peut signaler aussi le livre de François Lecombat, il porte bien son nom, enfin c'est peut-être un pseudo, L'audace d'être contre, une vie de lutte contre la scientologie, publié en 2014. Il raconte l'implosion de sa fratrie sous l'emprise de la scientologie. Le texte que vous avez entre les mains est extrait en bonne partie d'un article traduit de l'américain, publié sur un site qui s'appelle préventsecte.com, qui est un secte en déshérence depuis 2010, mais qui comporte des ressources très, très intéressantes. Et l'article s'appelle Le piège de la liberté totale, Scientologie, Dianétique et Ron Hubbard. L'auteur est Ion Attack. Il a été membre de l'église de Scientologie de 1974 à 1983, donc pendant 9 ans. Son livre Peace of Blue Sky, publié en 1990 aux États-Unis, une grosse brique de 400 pages sur Ron Hubbard, les organisations, les pratiques. Voilà, et l'article qui est mis en ligne est plus long que les feuilles que vous avez entre les mains. Je vous invite, si vous voulez, à regarder toujours à la page 1, le point 3, pour faire connaissance de Lafayette Ron Hubbard, pseudo-enfant prodige. De toute évidence, cet homme se révèle être un mythomane quand il parle de sa vie, ses origines et son œuvre. En outre, les écritures et documents reflètent son égoïsme, sa cupidité, son avarice, sa soif de pouvoir, son caractère vindicatif, son agressivité envers tous ceux qui lui sont perçus comme déloyaux ou hostiles. Ceci est une citation d'un jugement de la Cour suprême de Californie dans un verdict de 1984. Donc Ron Hubbard, créateur de la Dianétique et de la Scientologie, est né en 1911. À 19 ans, il entre à l'université George Washington pour entreprendre des études en génie civil. Son passage en troisième année est refusé à cause de ses résultats médiocres. C'est important de voir ça en clair parce que, si vous voulez, la façon dont il est présenté est évidemment tout à fait différente de la réalité. Les scientologues prétendent que Ron Hubbard possédait des diplômes à la fois en génie civil, en mathématiques. En fait, il n'a jamais eu aucun diplôme dans ces domaines. Son niveau en mathématiques était très bas. Et à l'université, il échoue également dans ses études sur la physique atomique et moléculaire, ce qui dément sa ridicule prétention selon laquelle il est l'un des premiers physiciens nucléaires d'Amérique. Évidemment, c'est autre chose. Le point 5 me semble très important. Il est l'auteur de romans de science-fiction, romans à bon marché. Il vit durant plusieurs années dans des conditions précaires en signant ses œuvres sous des pseudonymes ronflants, tels que René Lafayette, Tom Sherbrooke, Kurt von Rachen, Capitaine Béat, Northup, Winchester, Remington, etc. Sous le nom de Légionnaire 148, Hubbard concocte des histoires vraies au sujet de ses prétendus exploits au sein de la Légion étrangère française. Mais il subsiste surtout en écrivant des petits romans d'aventure pour des revues bon marché, en participant à la rédaction de nombreux magazines tels que Thrilling Adventures, The Phantom Detective, Smithsonian Novel Magazine. Puis il s'oriente définitivement vers la science-fiction, principalement pour une revue de science-fiction, donc. Parmi ses romans populaires, certains portent le titre de Carnaval de la mort, Roi des terroristes, Pirates de l'air. À l'époque des débuts de la Dianétique, en 1950, ses œuvres de science-fiction sont bourrées d'imagination, mais d'un style assez peu élégant. Il explore déjà des idées qui seront incorporées ultérieurement dans la scientologie. Mais voyez, cet aspect de sa personnalité, de son parcours de vie, auteur de romans de science-fiction, parce que ce qu'on va lire ensuite est un peu de cet acabit. Vous lirez la suite, je vous propose de regarder le point 8 sur sexe et magie noire. Après son départ de la Navy, Ron Hubbard abandonne sa première épouse, Margaret Louise Grubb, alias Polly, et ses deux enfants en bas âge pour s'initier, pardon, à la pratique de la magie noire. En 1938, il est pris d'une étrange hallucination pendant une anesthésie pour une intervention chirurgicale dentaire. Il se croit mort durant cette opération et se persuade d'avoir reçu une grande richesse de savoir au cours de cette expérience. Suite à cette découverte, il prétend avoir écrit un livre nommé Excalibur, mais n'a jamais pu trouver un éditeur. On peut se demander d'ailleurs s'il a réellement écrit ce livre. Son intérêt pour les sciences occultes le conduit à adhérer pendant une brève période à un groupe de Rosicruciens. Il raconte à un ami qu'il se croit lui-même protégé par un gardien spirituel appelé l'impératrice. Et il le répétera à certains de ses fidèles plusieurs années après. Donc, initiation à la magie noire, passage par la Rose-Croix. En 1945, il s'associe avec un certain Aleister Crowley, dirigeant d'une secte satanique. On a déjà entendu parler dans d'autres parcours. Crowley se fait appeler la bête 666, servant de l'antéchrist, préconise d'étranges pratiques sexuelles et l'utilisation de drogues à accoutumance. Grâce à lui, Ron Hubbard rencontre John Parsons, alias Jack, un chimiste et un de ses premiers membres du laboratoire de Jet Propulsion en Californie, mais dont la magie constitue sa passion nocturne. Hubbard et Parsons se mettront à pratiquer des rituels sexuels sur Sarah Elizabeth Northup, alias Betty, voulant devenir la mère de Babylone, l'incarnation du mal. Cette étrange association prend fin avec la fuite de Hubbard, non seulement avec la compagne de Jack, mais aussi avec son argent. Hubbard devient bigame en épousant Sarah Northup, est toujours dans une situation financière critique. Il commence à écrire des lettres pathétiques pour justifier une demande d'augmentation de sa pension d'invalide de guerre. En 1947, alors qu'il racontera plus tard qu'il s'était guéri lui-même grâce à la Dianétique, Hubbard fait état de ses tendances suicidaires et sollicite l'administration des vétérans pour une aide psychiatrique. Il continue à pratiquer des rituels de magie noire, se lance dans des exercices d'auto-hypnose, point très important, avec des affirmations suggestives du genre « Tous les hommes sont mes esclaves ». Pourquoi pas? En même temps, il continue d'envoyer des courriers de demande d'augmentation de sa pension d'invalidité en prétendant souffrir de tous les maux. À cette époque, il est déjà sous la dépendance de barbiturique prescrit à l'origine pour son ulcère. Son usage de la drogue s'est prolongé pendant toute sa carrière dans la scientologie, alors qu'il avait créé des centres de désintoxication, Narconon, organisation écran de la secte, on y reviendra plus tard. La Dianétique prétend triompher des tendances compulsives, pourtant Ron Hubbard n'a jamais pu s'affranchir du tabac. Alors venons-en maintenant au point 9 là, sur la Dianétique. C'est Ron Hubbard lui-même qui écrit « L'hypnose a été utilisée pour la recherche puis abandonnée ». En 1948, Hubbard présente des démonstrations sur l'hypnose. Et il écrit à son éditeur à propos d'un nouvel ouvrage qu'il assure d'un succès très prometteur, mariant les techniques de l'hypnose avec des recherches abandonnées depuis longtemps par Freud. Il invente la Dianétique. En 1950, il modifie les techniques d'hypnose sans avoir effectué davantage de recherches pour sortir son livre La Dianétique. Et dans un ouvrage de 1909, Freud décrivait une méthode pour faire remonter à la conscience des souvenirs traumatisants. Il demande aux patients de remonter à des incidents situés de plus en plus tôt sur une chaîne jusqu'à ce que la charge émotionnelle soit libérée. Non seulement Hubbard va reprendre cette technique, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres secteurs comme le psychospirituel aussi, hein. Non seulement il va reprendre cette technique, mais la transformer certaines expressions utilisées par le traducteur de ses lectures. Freud avait abandonné la technique parce que le procédé était trop laborieux et ne permettait pas de découvrir les sources des blocages. La Dianétique apporte parfois un soulagement initial, mais donne surtout la dangereuse conviction que certains incidents purement imaginaires correspondent à la réalité. Hubbard adopte les techniques de Freud, y ajoute une terminologie de son cru spécifique à la Dianétique et va développer une théorie selon laquelle le basique, en d'autres termes le premier incident traumatique, se produit dans l'utérus. En fait, cette affirmation fait suite aux recherches d'Otto Rank, Nandor Fodor et Zadger. Hubbard déclare en plus qu'il est réellement possible de se remémorer les incidents prénataux et même les instants précédant la conception. Fodor aussi avait écrit au sujet des souvenirs prénataux. Alors ça nous fait rigoler, mais en fait, quand vous allez faire une agapéthérapie au Puy en Velay, on vous sert ça sur un plateau d'argent, hein. Ça veut dire que c'est la théorie de Freud a fait des petits qui sont encore bien présents. Alors vous avez tout un vocabulaire donc qui va se faire jour ici, le mot basique. Donc, premier incident traumatique. Vous avez un autre mot qui est le terme d'engramme. Hubbard redéfinit le terme d'engramme comme étant l'image d'un incident traumatique qui a échappé à la conscience de l'individu. Une fois que le premier engramme, ou basique-basique, est éliminé, l'individu est supposé à l'état de clair. Par conséquent, libéré de toutes ses carences, pourvu d'un QI élevé en plus, c'est bien pratique. L'audition, encore un autre mot que vous allez retrouver, l'audition est dotée de vertus miraculeuses. L'audition consiste à se faire écouter et superviser par quelqu'un de la scientologie. Et il dit ceci, la Dianétique augmente le QI comme résultat accessoire de l'audition habituelle, une moyenne d'un point par heure de processing. C'est intéressant. Les membres atrophiés, les taches de peau, les éruptions cutanées et même la cécité et la surdité peuvent être guéris par la Dianétique. Bon. Le livre La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps soutient que par l'élimination des engrammes, l'individu est libéré de ses compulsions, obsessions, névroses, des risques tels que les troubles cardiaques, déficience visuelle, asthme, daltonisme, allergie, bégaiement, surdité, sinusite, hypertension, etc. etc. Enfin, la liste est longue. Hubbard prétend aussi guérir les cancers et la leucémie. Pourtant, aucune preuve sérieuse de ces prétendues vertus miraculeuses n'a jamais été établie. On va passer les paragraphes suivants pour aboutir au point 11, la technologie de la pensée métamorphosée en une religion. Il déclare à un moment, en 1949, j'aimerais lancer une religion. C'est là que se trouve l'argent. Et effectivement, à sa mort en 1986, la fortune personnelle de Hubbard est estimée à plus de 640 millions de dollars, amassée grâce à la scientologie, en dépit de son démenti selon lequel il n'a jamais touché de royalties sur la vente de ses livres. C'est seulement à la fin des années 60 que la scientologie se réfugie derrière son manteau religieux, face aux critiques de plus en plus virulentes de la part des gouvernements occidentaux. Des pasteurs de la scientologie suivent un stage de pratique d'une sorte de religion basée sur un simple livre et s'entraînent à la célébration de cérémonies écrites par Hubbard. À l'issue de leur stage de quelques jours, ils s'accoutrent de vêtements comparables à ceux de leurs homologues chrétiens, incluant un collier et une croix barrée. Alors, si vous avez de la peine à vous représenter, vous cherchez sur Internet au niveau des images, vous allez voir qu'est-ce que ça peut représenter. Le point numéro 12 est important sur la question du test de personnalité. Donc, à travers le point numéro 11, donc on voit que la scientologie se transforme en fait en une église. Maintenant, on va regarder un petit peu les techniques employées, le test de personnalité. La scientologie recrute la plupart de ses membres dans la rue en leur proposant un test de personnalité gratuit. Le Oxford Capacity Analysis avait été rédigé par un scientologue, un ancien marchand marin et n'ayant pas de réelle connaissance en psychologie. Ce test n'a rien à voir avec l'université d'Oxford et dérive en fait du Johnson Temperament Analysis Profile. Les 200 questions fournissent à la scientologie des informations personnelles très détaillées. À maintes occasions, la secte a utilisé ces informations dites confidentielles contre d'anciens membres. Donc imaginez un test de personnalité avec 200 questions et ensuite des archives sur chacune des personnes qui sont ainsi auditées. En 1991, une lettre à l'intention des recruteurs scientologues propose un cours expliquant comment présenter les résultats des tests de personnalité pour leur donner envie de rejoindre, pour donner envie de rejoindre la scientologie. Un autre document interne précise que cette évaluation sert à révéler à la personne ce qui ruine sa vie et à lui montrer comment la scientologie peut la sauver de cette ruine. Donc, vous voyez, c'est très intéressant aussi. On va s'attacher à ce qu'on dirait aujourd'hui les blessures. On va s'attacher à ce qui va de travers, ce qui va mal, les impacts mauvais. Lorsque vous lui révélez un de ses points faibles, dites-lui que la scientologie peut remédier à ça. Le test est conçu de telle façon que peu de gens obtiennent des résultats globalement positifs. Les adeptes utilisent des techniques de vente intensives et parfaitement rodées afin de convaincre ces victimes de s'endetter pour des années au profit de la scientologie. La première étape du recrutement consiste à focaliser l'attention de la personne sur les aspects les plus pénibles de sa vie, donc les ruines, ce que les hypnothérapeutes appelleraient les charges émotionnelles. Toute émotion intense tend à annihiler l'esprit critique. La froideur de la pensée rationnelle contraste avec la chaleur des émotions. Le recruteur joue sur la crainte de cette personne que sa condition pourrait empirer, en lui disant que sa condition pourrait empirer. Ensuite, le remède offert par la scientologie lui est proposé. Que ce soit le problème soulevé chez une personne, la solution immédiate est presque toujours un cours de communication et un endoctrinement pour faire connaître les théories de Ron Hubbard sur les personnes suppressives, encore un autre langage propre au groupe, les SP, les personnes suppressives. Quelques mots sur les techniques. La scientologie est nuisible, ses techniques sont nuisibles, sa pratique constitue un réel danger pour la communauté, médicalement, moralement et socialement. Ceci est tiré d'un rapport de commission d'enquête en Australie. Tandis que les bases de la scientologie sont pratiquement établies à la fin de 1952, Hubbard continue de mettre en place de nouvelles techniques censées garantir la guérison de toutes les maladies. Il emprunte de multiples formes de thérapie et de méditation pour créer une sorte de pont vers la liberté totale. Alors, je passe les détails, vous pourrez les lire si vous voulez. On va regarder la page 6, en bas à gauche. Un petit paragraphe où il dit: le pont est constitué d'une série d'étapes, de grades, chacun d'entre eux avec un prétendu résultat. Au grade 0, par exemple, les clients sont censés acquérir la capacité à communiquer librement avec quiconque sur n'importe quel sujet. En 1959, Hubbard instaure la vérification de sécurité où les scientologues subissent un interrogatoire avec obligation de fournir des réponses détaillées à une série de questions au sujet de leurs éventuelles transgressions morales. L'électromètre sert de détecteur de mensonges tout au long de cette séance. Toutes les confessions sont notées par l'auditeur et soigneusement conservées par la secte. Ces archives peuvent être utilisées comme un moyen très efficace pour faire taire les dissidents. Citation de Ron Hubbard. Ou de l'auteur du livre Une secte au cœur de la République, Serge Faubert, pardon. Obtenez des données, obtenez tous les noms, toutes dates, adresses, numéros de téléphone et autres renseignements qui pourraient être utiles à une investigation plus approfondie au cas du cas si on en avait besoin. La procédure d'intégrité, utilisant exactement les mêmes questions que la vérification de sécurité, est appliquée au grade 2 et fréquemment reprise au-delà. À un coût compris entre 250 et 500 dollars de l'heure. De toute façon, on ne peut rien faire sans payer. Chaque fois qu'on va plus loin, il faut payer. Hubbard présume que tout membre de la secte peut constituer un danger potentiel à n'importe quel moment. Cette suspicion est justifiée par le fait que des milliers de membres ont quitté la secte, y compris des dirigeants. Il existe deux autres grades avant le avant que le préclair c'est celui qui n'a pas encore abouti à une totale purification. Deux autres grades avant que le préclair aborde la forme la plus récente de l'audition dianétique. Dans la dianétique du Nouvel Âge, il est demandé au préclair de reparcourir des incidents arrivés dans ses vies antérieures, ce qui apporte d'étranges histoires invraisemblables qui servent d'explication aux problèmes de leur vie actuelle. Ce n'est plus l'inconscient qui est sollicité, mais l'imagination. L'audition devient autosuggestion, donc des souvenirs induits, si vous voulez. Au moment de la dianétique, les préclairs sont supposés atteindre l'état de clair, avec l'hypothèse qu'ils soient libérés de leur mental réactif qui a emmagasiné les engrammes. Une fois clair, le client est prêt à aborder les cours avancés de la scientologie, appelés niveau OT, Thetan Operant. Un peu compliqué, hein? Ça va? C'est tout un vocabulaire très très particulier avec lequel il faut familiariser. Mais il a eu une telle production, si vous voulez, que ça s'enchaîne constamment. On vous fait subir des auditions à n'en plus finir pour gravir des états prétendument de plus en plus avancés. Sur le point 14, les niveaux top secrets, je vous propose de regarder page 7 plutôt, à partir du troisième paragraphe. Pour OT3, le pré-OT, Upper and Theta, verse une donation minimale de 7 200 $ pour traverser le mur de feu. À ce niveau, il lui révélait cette histoire délirante. Le chef de la Confédération Galactique, 76 planètes autour de grosses étoiles visibles de la Terre, fondée il y a 75 millions d'années, a solutionné le problème de la surpopulation, environ 250 milliards d'habitants par planète, en pratiquant des implants en masse et des déportations. Il a fait transporter les tétans sur la Terre et placé une bombe H dans les principaux volcans. Les tétans de la zone du Pacifique ont été envoyés à Hawaï et ceux de la zone d'Atlantique à Las Palmas. Il s'appelait Xenu et employait des renégats pour cette tâche. Lorsqu'il eut achevé son crime, les officiers loyaux restaient fidèles au peuple et réussirent à le capturer après 6 années de lutte dans une montagne où il se trouve encore aujourd'hui. Quant à eux, ils ont disparu. La durée et la brutalité de l'incident ont été telles que cette confédération n'a jamais pu s'en débarrasser et l'endroit où il se trouvait est devenu un désert. L'implant est conçu de manière à tuer quiconque tenterait de le réduire. Mais la technologie que j'ai, dit Ronnebard, que j'ai mise au point, permet de résoudre ce problème. Je savais que quelqu'un devait faire le saut, et en 1967, c'est moi qui l'ai fait. J'en suis sorti terriblement secoué, mais vivant. Je suis probablement le seul, au cours des 75 millions d'années, à avoir réussi. Je possède toutes les données maintenant que je vous livre ici. Approcher librement l'implant, sans préparation ni protection, mène à la mort. Sauf si on décide de suivre à la lettre le procédé que j'ai défini avec précision. Bien sûr, une approche libre n'a pas de fin, détruit le sommeil et entraîne finalement la mort. Par conséquent, soyez prudents et parcourez l'incident 2 et 1 uniquement comme je l'ai indiqué. Votre masse est une masse de tétans individuels collés à vous en tant que tétans menant le jeu et à votre corps. Il vous faut débarrasser de tous ces tétans en parcourant d'abord l'incident 2 puis l'incident 1. C'est un long travail qui requiert du soin, de la patience, une bonne audition. Vous auditez des êtres, ils réagissent comme n'importe quel préclair. Les tétans croyaient qu'ils étaient un, c'est erreur fondamentale. Bonne chance. Ça va? Bon. Ça, je vous disais, ce qu'on a vu précédemment, c'était un peu de la bibine par rapport à ça.
Ouais.
Selon Ronnebard, toutes les cultures et religions ont ensuite dérivé de ces implants hypnotiques. Il affirme que le Christ dérivait, sont sortis de ces implants hypnotiques. Hein. Il affirme que le Christ n'était qu'une illusion implantée il y a environ 2000 ans. Après l'implantation, les tétans ont été implantés dans des clusters. Et d'après OT3, tout être vivant est une masse de ces clusters. Enfin, bon. Si vous arrivez à comprendre
il y a autant de science-fiction.
Oui, on est dans un monde parallèle.
Ouais.
Je vous propose de regarder le point 16. Attaque le Guardian Office. Comme dit Ronnebard, nos organisations sont amicales, elles ne sont là que pour nous, vous aider. Au cours des années 50, Ronnebard recommande des mesures de plus en plus virulentes face aux critiques et aux dissidents. La secte entreprend systématiquement des campagnes de dénigrement contre les organisations qui utilisent indépendamment les techniques de la scientologie et sans reverser une partie des contributions à la secte. À propos d'un hypothétique groupe dissident en 1955, Ronnebard écrit « Si vous découvrez qu'un groupe qui se fait appeler Pressed Processing, est installé dans les environs, vous devez employer tous les moyens contre eux. La loi peut être très facilement utilisée pour les attaquer, et un peu de harcèlement suffira pour provoquer sa mort professionnelle. Si possible, essayez de le ruiner complètement. En 1958, il institutionnalise des services de renseignement. Dans son livre Manual of Justice, il déclare que les renseignements sont surtout une collection de données sur les gens, il concerne tout le monde à chaque moment et pour toute chose. C'est le prélude à la création de la police secrète scientologue et à son agence de renseignement, le Guardian Office. Un fichier d'éthique existe pour chaque scientologue. Il contient toutes ses confessions notées au cours des auditions et des rapports sur ses éventuels écarts de conduite. Toujours à la page 8, sur la colonne de droite, le troisième paragraphe. En février de l'année suivante, 65, Lord Balnild sollicite le Parlement britannique pour ouvrir une enquête. Ron Hubbard riposte en créant le Guardian Office et en renforçant sa tactique de propagande noire contre quiconque tenterait de s'opposer à la scientologie. Si vous êtes attaqué sur un point vulnérable par quelque individu, que ce soit fabriqué ou trouvé une menace contre eux pour les amener à négocier la paix, ne vous défendez jamais, attaquez toujours. Si vous êtes attaqué, arrangez-vous pour que la question soit politisée. Donnez l'impression au public, au gouvernement, qu'ils sont tombés sur un barrage de flèches, sur un bombardement électronique, et que s'ils continuent cela, ça provoquera leur propre désintégration. Et tout en bas, donc le dernier paragraphe, les agents du Guardian Office dérobent des dossiers médicaux, envoient des lettres anonymes et calomnieuses, préparent des coups montés contre les opposants afin qu'ils soient poursuivis pour des actes criminels qu'ils n'ont pas commis, pratiquent le chantage, le harcèlement, les cambriolages à domicile. Ils vont jusqu'à infiltrer les milieux gouvernementaux pour voler des milliers de dossiers, y compris des fichiers d'Interpol sur le terrorisme et ceux d'échange d'informations entre les États-Unis et le Canada. De nombreux opposants ont fini par se décourager et sont réduits au silence. Ça vous explique que lors de certains procès avec la scientologie, il y a des dossiers en masse qui disparaissent. Un point que vous ignorez peut-être, le point 17 sur la Sea-Org. Étant prié de quitter la Rhodésie en 1966 et par crainte d'une action en justice en Angleterre, il sera plus tard officiellement interdit de séjour, Hubbard s'embarque pour Las Palmas et crée la Sea-Org, une branche dite élite de la scientologie. Pendant 8 ans, de 67 à 75, en compagnie de plusieurs centaines de ses fidèles non initiés à la navigation, il parcourt la Méditerranée et l'Atlantique à bord de 3 navires. L'incompétence de ses équipages est à l'origine de sérieux dommages causés à la flottille au cours des tempêtes et des manœuvres portuaires. Les membres de la Sea-Org sont affublés d'uniformes pseudo-navals, c'est comme pour l'Église, avec des grades militaires analogues à ceux de la Navy. Ils sont tous signés un contrat d'engagement qui, en plus de son caractère manifestement antisocial, dépasse largement les limites de l'absurde. Je, sous-signé, m'engage par la présente à être employé dans la Sea Organization. Étant sain d'esprit, je réalise totalement et suis d'accord de suivre son but, qui est de mettre l'éthique en place sur cette planète et l'univers, et je souscris pleinement et sans réserve à la discipline, à la morale et aux conditions de ce groupe et promets d'y obéir. Par conséquent, je m'engage dans la Sea Organization pour le prochain milliard d'années. Lu et approuvé, signé. La direction de la Scientologie est devenue une organisation paramilitaire sous la direction du Commodore Ron Hubbard. Tous les membres de la Sea-Org sont censés s'entraîner aux arts martiaux et au maniement des armes. Les officiers se vantent publiquement que la direction est dure et impitoyable. La compassion est pratiquement ignorée dans les enseignements prolixes de Ron Hubbard. Important ceci, l'absence de la compassion. Les membres de la Sea-Org sont soumis constamment à un emploi du temps écrasant de 90 heures par semaine pour une rémunération dérisoire. Certains doivent parfois se contenter d'un régime alimentaire composé de riz, de haricots, de porridge. La discipline est stricte et les sanctions très dures. La suspension de salaire, la privation de nourriture équilibrée précèdent l'exclusion des quartiers dortoirs quand le personnel est consigné dans la hutte à cochons. Les membres de la Sea-Org ne jouissent que d'un droit de visite très restreint auprès de leurs enfants, couramment 1 à 2 heures par semaine. Les enfants sont affectés à la Cadet Org dans le but d'en faire des membres à part entière. Leur destin est tout tracé. Ils commencent à travailler pour la secte dès l'âge de 12 ans et sont parfois affectés à des postes clé avant leur 15e anniversaire. Les enfants âgés seulement de 12 ans exercent déjà des fonctions d'auditeurs en recueillant les confessions des adultes. La question des centres narco, non, parce que ça, vous pouvez rencontrer ce genre de choses brusquement, quelquefois, quand ils font des campagnes. Donc, Narconon, fondé par William Benitez au milieu des années 60. Ces centres proposent un programme de réhabilitation des personnes alcooliques et des toxicomanes. Cette organisation profite temporairement de l'aide des organismes fédéraux jusqu'à ce que ses liens avec la scientologie soient dévoilés, que ses méthodes se soient avérées inadéquates. Narconon agit dans le cadre de la campagne scientologue Dites non à la drogue, représentée par un des porte-parole de la secte et ancienne toxicomane dépendante de la cocaïne, l'actrice Christy Alley. Pendant plusieurs années, Narconon tente d'implanter un important centre dans la réserve indienne de Chilocco. En décembre 1991, le bureau de la santé mentale du Oklahoma refuse d'accorder l'agrément de ce centre, invoquant le fait qu'il n'y a aucune certitude scientifique sur l'efficacité du programme Narconon et qu'il présente même certains dangers. Le bureau déplore certains faits. Non seulement le suivi médical n'est pas adapté, mais en plus, les personnes ayant terminé ce programme sont automatiquement déclarées aptes à intégrer le personnel de Narconon. Aucune séance d'information sur la consommation des substances n'est proposée. Les patients subissent simplement le traitement. Le programme est d'un caractère très général, appliqué sans nuance et sans aucune personnalisation à tous les pensionnaires. Etc. etc. Un tout petit peu plus loin, au cœur de ce programme, le rundown de purification est censé évacuer du corps les résidus de la drogue au moyen de doses massives de vitamines, accompagnées de demi-heures quotidiennes de course à pied, suivi de 4 h 30 de transpiration dans un sauna. Le bureau relève des négligences au niveau du contrôle de la température du sauna, mais met en garde contre les dangers potentiels de la pratique prolongée du sauna, et particulièrement en ce qui concerne les drogués et l'héroïne. Narconon emploie du personnel insuffisamment qualifié, peu expérimenté pour soigner les traitements de ses patients. Et un peu plus bas, les doses prescrites de vitamines sont tellement importantes que le rondon de purification est considéré comme potentiellement dangereux. Certaines vitamines peuvent, à forte dose, constituer un poison, et la vitamine B1 peut avoir un effet désorientant comparable à celui de la drogue. Voilà. Donc, des choses quand même qu'il faut savoir, parce que Narconon, c'est un des, en France du moins, une des sociétés écrans qui a été le plus présente. La position de la scientologie par rapport aux religions, le point 20. Le but commercial de cette organisation obscure est évident. Elle abuse de la crédulité et de la faiblesse des gens. Les pratiques de la scientologie sont nuisibles et répréhensibles. Cette organisation, ne mérite pas, pour des raisons évidentes, d'être considérée comme une religion dans l'État de Victoria. Ceci est un jugement encore de la Cour d'Australie. Selon Hubbard, la scientologie n'est ni confessionnelle ni incompatible avec les autres religions. Avec ça, vous ratissez large. Ni confessionnel, ni incompatible avec les autres religions. Affirmation grotesque. Dans OT3, Hubbard affirme que le Christ n'est qu'une fabrication, une suggestion hypnotique implantée. Au niveau OT8, incohérent avec OT3, on révèle que le Christ fréquentait de jeunes garçons. Je disais que c'est Ron Hubbard y est allé d'une interprétation malhonnête du passage des évangiles. Laissez venir à moi les petits-enfants. Son passé luciférien avec Aleister Crowley n'y est pas étranger. Voici un extrait de OT8. À ceux qui pensent que j'ai marché sur les pieds du christianisme, permettez-moi de vous dessiller les yeux sur un de ses mythes favoris. Par exemple, l'histoire de Jésus est loin de correspondre à la sainte image qu'il se donnait. Non seulement il avait des relations sexuelles avec de jeunes garçons et des hommes, mais en plus, il se laissait aller à des excès de fureur et de haine non contrôlables, incompatibles avec son appel à l'amour des uns des autres. Alors, on comprend quand même effectivement que le mot, que je crois que c'est Benoît XVI, à propos de la pédophilie dans l'Église, avait employé le terme de diabolique, parce qu'effectivement, partout où il y a pédophilie, par derrière des ramifications qui peuvent être en rapport avec du satanisme. À la page 11 en haut, la scientologie contredit les enseignements de toutes les grandes religions en présentant la santé infaillible comme une vertu. Comme une vertu et comme le résultat d'une grande force spirituelle. Santé infaillible. Hubbard divise la lutte pour la survie en 8 dynamiques. Ces dynamiques sont l'individu, la famille, le sexe, les groupes, l'humanité, les formes de vie, la matière, l'esprit, l'être suprême. Et Hubbard prétend que pour prendre une décision sensée, il suffit de déterminer son effet sur les dynamiques et de choisir la solution qui vise le plus grand nombre d'entre elles. La 8e dynamique où Dieu est inaccessible. Dans cette optique, il est toujours possible de prendre une décision car il privilégie les 7 premières dynamiques. Cette pratique est inconcevable dans toutes les autres religions en croyance en un seul Dieu. Hubbard bannit également la notion de compassion. Les scientologues pensent que tout ce qui arrive à un individu est provoqué par lui-même. Ainsi, les infortunés sont considérés comme des victimes ayant attiré sur eux leur propre malheur. Dans la secte, la sympathie est désapprouvée et considérée comme une réaction émotionnelle plus basse que la crainte et la colère. Toutes les transactions doivent faire l'objet d'un échange mutuel. Par conséquent, les scientologues ne sont pas disposés à travailler ou à donner pour la charité à des organisations autres que les sociétés écrans de la secte. Le bannissement de la notion de compassion est typique des relations d'Hubbard avec le satanisme. Ça fait partie du credo du satanisme Crowley et LaVey. Mais lorsque Bertrand Chaudet, dans d'autres conférences, signalait comment, au fond, dans des réalités du Nouvel Âge, des médecines parallèles, etc., il y a comme une étanchéification par rapport à. Voilà, on retrouve ça ici déjà. Bon, toute la question au point 21 de la manipulation bon, est très évidente. C'est très clair. Quand quelqu'un s'est inscrit, considérez qu'il s'est joint à nous pour la durée de l'univers. Ça, c'est simple. Ne permettez jamais une approche de type esprit ouvert. Une fois engagés, ils sont à bord, dans les mêmes conditions que le reste d'entre nous, pour le meilleur et pour le pire. Ne les laissez jamais s'engager à moitié pour notre cause. Quand Madame Intel vient suivre nos enseignements, mettez bien en évidence ses doutes et ses ruines. Le mot d'ordre est « Nous préférons vous voir mort qu'incapable. » Voilà. Ron Hubbard prétend s'intéresser à l'hypnose depuis son adolescence. À ses débuts, il reconnaît que ses recherches sur la Dianétique sont basées sur les états de transe hypnotique intense. Et que la Dianétique elle-même peut également engendrer un état de transe. Le terme d'hypnose a été l'objet de nombreuses controverses. C'est probablement l'hypnothérapeute Milton Erickson qui a le plus solidement établi la notion d'hypnose en tant qu'interaction entre les individus parvenant à un état de conscience altéré. Les psychologues contemporains admettent qu'une grande partie du processus de la pensée se produit en dehors de la conscience. L'hypnothérapeute cherche à accéder à l'inconscient dans le but de placer des suggestions positives qui exerceront une influence déterminante sur ses propres décisions. Mais en hypnothérapie, le client donne son consentement à suivre ses séances, tandis qu'en scientologie, le procédé est appliqué sans qu'il s'en aperçoive. Hubbard déclare que tout ce qui existe résulte de la conscience. La réalité est un accord avec la conscience. L'univers est un accord au-dessus de l'apparence. Dans cette optique, la scientologie cherche à changer chez l'individu sa perception de la réalité et à la remplacer par les visions de Ron Hubbard, tout en prétendant que l'individu devient plus conscient et plus autodéterminé. La scientologie prétend avoir des bases scientifiques, mais en fait, il est impossible de passer une audition sans soutenir des croyances non confirmées scientifiquement, telles que la réincarnation, la possession d'une âme ou le bodhicitta et l'existence et l'influence des engrammes. Donc vous voyez comment on est dans un système enfermant, Vampirisant, le point 22 sur l'entreprise de marketing ne nous apprend rien, mais enfin, les cours avancés en scientologie constituent les plus précieux services de la planète. Les assurances sur la vie, maison, voiture et biens de consommation ont tous une valeur périssable. Il n'y a rien de comparable aux cours avancés. Ils ont infiniment plus de valeur que le temps lui-même, dit Renovard. Donc, technique de marketing, qui constitue une autre facette de cette domination excessive et de la persuasion destructrice des adeptes. Les clients de la scientologie sont harcelés pour satisfaire des exigences financières croissantes, appelées dotations, pour des auditions et des cours en vue de monter sur le pont de la liberté totale. Les coûts totaux sont de l'ordre de 350 000 dollars, mais certains adeptes payent encore plus. Beaucoup de scientologues se sont retrouvés sans domicile, lourdement endettés, une situation qui résulte de pressions psychologiques intensives. Les entretiens en vue de la fourniture de prestations peuvent durer jusqu'à 13 heures sans interruption. Le point 23, l'utilisation du mensonge. Manier la vérité est une affaire délicate, dit Hubbard. Dites une vérité acceptable. La scientologie prétend compter plus de 7 millions de membres à travers le monde, alors qu'un rapport interne datant de 87 fait état de seulement 40 000 individus. Il a souvent été répété que les livres de Hubbard ont été reproduits à des millions d'exemplaires. Les livres de Hubbard ont surtout été hissés parmi les best-sellers au moyen de campagnes publicitaires, soigneusement orchestrées. Et la scientologie a probablement réussi à vendre plus de copies des livres de Ron Hubbard qu'elle en a imprimé, en les rachetant, puis en les revendant. Une libraire a même reçu un arrivage de livres où elle a reconnu ses propres étiquettes de la vente précédente. Bon. Le point 25, les ravages de la scientologie. Les auditions scientologiques peuvent avoir un effet profondément destructeur. Les résultats d'une enquête effectuée sur 48 sectes par Cornwall et Siegelman montrent que les actes scientologues présentent le plus important taux d'accès de violence, d'hallucination, de dysfonctionnement sexuel, de tendance suicidaire. Ils estiment la durée moyenne de rétablissement complet à 12 ans en ce qui concerne les anciens scientologues. Les membres sont complètement saturés de visions trompeuses et non scientifiques de l'univers. Ils en viennent à se considérer comme appartenant à une élite restreinte, attaquée de tous les côtés par une gigantesque conspiration. Les scientologues s'expriment et pensent dans un langage ésotérique fabriqué par Ron Hubbard, auteur d'un dictionnaire rempli de plus de 1000 pages de définitions. Ils s'entraînent à afficher une sérénité et une apparence joviale, quels que soient leurs sentiments réels. Beaucoup d'entre eux deviennent des drogués de l'audition, incapables de faire face à la vie sans passer des séances. La secte s'ingère dans tout ce qui touche à la vie de l'adepte, conformément aux consignes de Ron Hubbard, dans pratiquement tous les domaines, qui vont du management des affaires à l'éducation des enfants. La scientologie tente de susciter une crainte obsessionnelle vis-à-vis des professionnels de la psychiatrie, si bien que les actes scientologues sont généralement réticents à demander une aide psychologique à ces derniers. Cette situation se complique par la difficulté des professionnels de la psychiatrie à appréhender les problèmes des expériences vécues dans les sectes. Pour ces raisons, beaucoup d'anciens scientologues basculent vers d'autres sectes ou vers des dérivés de la scientologie tels que Avatar. Voilà. Ce bref survol, je le terminerai à la page 14 par trois remarques personnelles, donc sur la colonne de droite. Par rapport à ce que nous avons pu travailler lors d'autres séances, toute proportion gardée, on ne peut être qu'être frappé par une similitude entre certaines techniques employées par la scientologie et ce qu'on découvre dans le courant chrétien psychospirituel, manifestée par l'agapé-thérapie, de quelque origine qu'elle provienne, que ce soit du Canada ou d'ailleurs. à savoir la même détermination à devenir clair en essayant de guérir les blessures du passé. Le mythe de la guérison totale. Deuxièmement, la proximité avec l'hypnose, qui est saisissante, comme si la scientologie était la caricature des déviances potentielles de ce type de thérapie. Et puis un troisième point, c'est que la raison a totalement disparu de l'horizon. La scientologie est totalement illogique, se présente comme une religion sans confession de foi, comme l'expérimentation d'une pratique, alors qu'en fait tout repose sur la foi en Ron Hubbard et en ses méthodes, sans cesse remaniées et bricolées. Voilà, c'est sans doute trop rapide, mais ça vous donne quelques éléments que vous pourrez approfondir ensuite en relisant tout l'ensemble.